Radio J. Radio J. Le 6-9. Ilana Ferradian. Radio J.
Il est 6h. Bonjour et bienvenue sur Radio J. Merci de nous rejoindre comme tous les matins. Nous sommes en direct ce lundi 2 septembre 2024. Et oui, c'est l'automne, c'est le début de l'automne. On va en parler tout de suite, le journal avec Eva Soto. Labadie, ce n'est pas le 21 septembre, effectivement, puisque le 1er septembre, l'automne débute pour les météorologues. Alors moi, je suis du côté de ceux qui font la météo.
Bah voilà.
Bonjour Eva.
Bonjour.
Comment ça va?
Ça va, c'est l'automne.
C'est l'automne. En tout cas, pour ceux qui font la météo. Bonjour Greg.
Bonjour Eva.
Ça ne vous convainc pas cette...
Oui, puis on l'a bien vu ce week-end. C'est vrai qu'il n'a pas du tout fait 32 degrés en plus. Hein.
C'est vrai qu'il faisait extrêmement chaud ce week-end. Vous avez profité de votre week-end un petit peu? Vous avez fait quoi?
J'ai travaillé.
C'est vrai, qui travaille le dimanche. On a tendance à l'oublier, c'est vrai, mais Eva est sur tous les fronts, du matin au midi, le soir. On va lui installer un petit lit bientôt dans le couloir.
Je vais exiger une douche,
petite kitchenette aussi,
une kitchenette. Voilà.
Ça va Greg?
Mais ça va bien.
Vous nous regardez avec votre air autant sur votre...
Non, je suis toujours pas d'accord sur cette histoire d'automne, il va falloir se justifier.
Bon écoutez, on n'a pas le temps, tout de suite le journal et beaucoup de rendez-vous ce matin. Sébastien Lévy sera avec nous à partir de 6h20. Actualité, on en parle avec vous, Eva. 332e jour de guerre et la protestation ne fait pas taire les armes.
Et oui, en Judée et Samarie, des terroristes qui attaquaient à coups d'explosifs des troupes déployées à Jenin ont été visés lors d'un raid aérien sur le front nord. Les sirènes d'alerte ont encore retenti hier soir. L'armée de l'air israélienne a frappé des lanceurs de missiles du Hezbollah, de là où des roquettes ont été tirées samedi vers la Galilée occidentale. Et plus tôt dans la journée, un de ces engins a explosé dans la région de Kfar Yuval, un réserviste de Tzal, a été blessé ainsi qu'un civil, tous deux évacués vers l'hôpital, alors que le chef de l'état-major de Tzal s'est rendu hier sur le site où les otages ont été découverts après avoir été assassinés par le Hamas dans la bande de Gaza.
Aéroport, école, administration, Israël en tout cas est à l'arrêt à partir d'aujourd'hui. L'arme de la protestation pour un accord sur les otages, c'est la grève générale.
L'appel a été lancé hier soir à la manifestation de Tel Aviv par le chef de la Histadrout, le principal et plus important syndicat israélien. Arnon Baron a annoncé une grève générale illimitée à partir d'aujourd'hui. Et ça concerne les lignes de bus, les ports, les municipalités, bien sûr aussi l'aéroport Ben Gourion. Il appelle le secteur privé à se joindre à ce mot d'ordre. Un pays, Israël, sous le choc est divisé puisqu'hier soir, plusieurs municipalités ont aussi annoncé qu'elles ne se joindraient pas à la grève. C'est le cas entre autres de Jérusalem, d'Ashdod, de Petah Tikva, de Safed ou encore de Bnei Brak.
Après l'annonce de l'assassinat de 6 otages par le Hamas, des milliers d'Israéliens ont manifesté hier soir.
10 000 comptabilisés juste pour Tel Aviv à l'appel du Forum des familles des otages qui accuse le Premier ministre et le gouvernement d'avoir abandonné les captifs lors de ces manifestations. 29 personnes ont été arrêtées. Et avant cette mobilisation massive, Tel Aviv, hier soir, a tout fermé dès 18h. Bars, restaurants, le désaccord porte sur la ligne du gouvernement et la décision prise jeudi par le cabinet de guerre sur le maintien de Tsahal le long du couloir de Philadelphie entre Gaza et l'Égypte de Tsahal, alors que les terroristes du Hamas et l'Égypte rejettent cette hypothèse. D'ailleurs, l'adjoint du numéro 1 du groupe terroriste exige aussi un retrait israélien du corridor de Netzarim et du passage de Rafah. On écoute Binyamin Netanyahou, le premier ministre israélien.
Ces jours-ci, alors qu'Israël mène des négociations intensives avec les médiateurs dans un effort suprême pour parvenir à un accord, le Hamas continue de refuser fermement toute proposition. Pire encore, à ce moment précis, il a assassiné 6 de nos otages. Celui qui assassine les otages ne veut pas d'accord. Nous, de notre côté, n'avons pas lâché prise. Le gouvernement israélien est déterminé et je m'engage personnellement à continuer de lutter pour un accord qui finira par libérer tous nos otages et garantira notre sécurité et notre existence.
Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, qualifié de tueur sur un tag retrouvé sur un véhicule qui assure son cortège pour dégager les voies de circulation. Le Shin Bet enquête sur la façon dont les vandales ont pu accéder à cette voiture sans intervention.
Et puis enfin, au chapitre politique, hier lors de la réunion hebdomadaire du gouvernement, plusieurs ministres ont fustigé Yoav Gallant.
Le ministre de la Défense est resté sur sa ligne en affirmant les exigences sur le corridor de Philadelphie nous empêcheront d'atteindre les objectifs de la guerre. Selon ses mots, en faire une priorité au prix de la vie des otages, c'est une honte morale grave. L'establishment sécuritaire estime possible d'ailleurs de quitter Philadelphie dans l'immédiat, quitte à y revenir plus tard. C'est dans ce contexte que les 6 otages ont été enterrés hier. Le porte-parole de Tsahal, Daniel Hagari.
Nous avons informé les familles des otages retrouvés que les corps de leurs proches ont été retrouvés par les forces armées israéliennes dans un tunnel souterrain à Rafah. D'après nos premières informations, ils ont été brutalement assassinés par les terroristes du Hamas peu de temps avant qu'on ne les retrouve. Ils ont été kidnappés vivants par le Hamas le matin du 7 octobre. Leurs corps ont été trouvés au cours d'un combat dans un tunnel de Rafah qui se trouve à près d'un kilomètre du tunnel où nous avons secouru Farhan al-Kadi il y a quelques jours.
C'était donc Daniel Hagari, traduit par LCI. Le président Biden, de son côté, s'est entretenu au téléphone avec John Pauline et Rachel Goldberg, les parents de Hersh, qui étaient aussi de nationalité américaine.
Merci beaucoup, Eva Soto. Eva, on vous retrouve tout au long de cette édition sur Radio J. Et oui, merci de nous rejoindre pour la météo. Ce lundi matin, le temps est couvert et pluvieux au nord-ouest, assez ensoleillé à l'est avec beaucoup de douceur. Et dans l'après-midi, les pluies vont se poursuivre dans le nord-ouest jusqu'au littoral atlantique. Toujours, il fait toujours très chaud hein, du côté sud. Paris épargné par les pluies. Il fera également 25 degrés en Île-de-France, 28 du côté de Lyon, 29 à Marseille, 19 à Brest. Et puis en Israël, 31 degrés si vous êtes à Jérusalem, idem à Tel Aviv, 28 à Haïfa, un peu plus frais. En revanche, il fait très chaud si vous descendez à la mer Morte, 37 degrés, 40 à Eilat.
Le 6-9. Radio-J.
Radio-J. Merci de nous rejoindre sur Radio-J comme tous les matins et nous sommes à présent avec notre correspondante à Jérusalem, Pascal Zonshine. Bonjour Pascal.
Bonjour Ilana.
Et oui, chaque jour on fait le point de l'actualité avec vous. 332e jour de guerre à présent. Et aujourd'hui, on l'apprend, Israël est à l'arrêt. Hein, l'arme de la protestation pour un accord sur les otages, c'est la grève générale, Pascal.
Oui, et ce alors qu'hier soir, des centaines de milliers d'Israéliens sont descendus dans la rue pour réclamer la libération des otages, des rassemblements dans plusieurs villes du pays, mais le plus important à Tel Aviv. À l'issue de la manifestation, des heurts ont opposé plusieurs centaines de manifestants aux forces de l'ordre qui ont tenté durant près de 4 heures de les repousser de la voie rapide où ils s'étaient regroupés. Tirs de grenades incapacitantes et intervention de la police montée, plusieurs blessés de part et d'autre, dont une députée travailliste bousculée par les policiers. Une trentaine de personnes ont été interpellées et depuis plus d'une heure, donc, a débuté la grève générale à l'appel du président de la Histadrout, la centrale syndicale israélienne. Nous ne pouvons plus rester passifs alors que les otages sont assassinés à Gaza. 11 mois, ça suffit. Il faut un accord maintenant et ramener notre pays à la normale, a déclaré hier Arnon Bar-David pour expliquer pourquoi il avait répondu positivement à la demande des familles des otages. Une grève qui touche l'éducation, une partie des transports publics, les hôpitaux, sauf les services d'urgence, certaines municipalités, les banques, une partie du secteur industriel. L'aéroport Ben Gurion va débrayer durant quelques heures. La grève a été déclarée pour une journée reconductible, un mouvement que l'on n'avait plus vu depuis la contestation contre la réforme judiciaire fin mars 2023. Et ce choc qui a suivi la découverte samedi soir de 6 otages assassinés par le Hamas dans un tunnel de Rafah intervient dans un contexte sécuritaire qui ne connaît pas de répit. Hier matin, 3 policiers ont péri dans une fusillade terroriste près de Hébron. L'inspecteur Arik Ben Eliaou, 37 ans, l'adjudante-chef Hadass Brantz, 53 ans, et le sergent-major Roni Chakouri, 61 ans, dont la fille, la sergente Maure Chakouri, elle aussi policière, avait été tuée le 7 octobre dans l'assaut de l'hôtel de police de Sderot par les terroristes du Hamas. Enfin, sur le front nord, la routine de la guerre continue. Encore des dizaines de tirs du Hezbollah hier contre la Haute-Galilée. Deux blessés, dont un grave, hier après-midi, par le tir d'un missile anti-char contre les volontaires qui gardaient le kibboutz de Kfar Yuval sur la frontière libanaise.
Alors évidemment, beaucoup d'actualités. Vous parliez de cette grève générale à venir aujourd'hui, Pascal. La colère est très forte, notamment contre le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. On juge qu'il n'a pas fait son travail en fait correctement et qu'il a surtout abandonné les otages dans la bande de Gaza.
C'est un mouvement, évidemment, et des critiques que l'on entend depuis de longs mois. Mais il est vrai que ce choc consécutif à l'annonce de la mort de ces six otages, cinq jeunes qui avaient été capturés au Festival Nova et une habitante du kibboutz Be'eri, Carmel Gat, elle aussi capturée le 7 octobre. Cela a choqué profondément parce que on a découvert que ces otages avaient été assassinés dans la nuit de jeudi à vendredi. Ils étaient encore en vie jeudi. Et cela, c'est absolument insupportable. Personne n'y est pour rien, évidemment. Ça n'est pas un échec de Tsahal. La découverte s'est effectuée à Rafah, donc dans cette zone où Tsahal opère en permanence. C'est apparemment l'approche des soldats qui a décidé, les geôliers, de leur propre initiative, d'assassiner les otages qu'ils avaient sous leur garde comme seul moyen de prendre la fuite ensuite. Ces terroristes ont donc disparu, évidemment, Tsahal les recherche. Mais là, c'était en quelque sorte l'annonce de trop. Les annonces de découverte de dépouilles d'otages sont évidemment autant de coups pour les familles, pour la population israélienne. Mais cette fois-ci, la proximité entre l'assassinat des otages et la découverte de leurs dépouilles a vraiment fait l'effet d'un électrochoc en Israël.
Eva pour Pascal.
Bonjour Pascal.
Bonjour Eva.
Qu'attendent les protestataires, les manifestants de leur mouvement exactement de façon concrète ?
De façon concrète, une pression sur le gouvernement israélien pour qu'il revienne sur sa décision. En réalité, le gouvernement n'est pas opposé à une trêve avec le Hamas. Ce qui pose problème, ce sont les conditions, les modalités de cette trêve, en particulier le maintien de Tsahal sur deux axes stratégiques dans la bande de Gaza, en particulier cette route de Philadelphie qui longe la frontière égyptienne. Benjamin Netanyahou considère que c'est un axe vital stratégique dont Tsahal doit impérativement conserver le contrôle. Et on voit maintenant qu'il y a en quelque sorte une contradiction entre les objectifs tactiques militaires et la possibilité de récupérer les otages. Et là, ce hiatus, en réalité, c'est cela maintenant qui préoccupe les Israéliens. Et donc, ceux qui hier ont décidé de descendre dans la rue et ceux qui aujourd'hui vont se joindre au mouvement de grève, c'est dans l'objectif clair de pousser le gouvernement israélien à accepter un accord de trêve avec le Hamas.
Pascal, il y a aussi ces tensions en fait entre le ministre Yoav Gallant et Benjamin Netanyahou qui jouent dans ce dossier.
Qui joue évidemment, alors à plusieurs titres en réalité. Bon, le ministre de la Défense Yoav Gallant avait été appuyé dans son approche du conflit, dans son approche stratégique du conflit, par les ministres centristes du parti de Benny Gantz à l'époque où ils avaient rejoint le gouvernement d'urgence et siégeaient dans le cabinet de guerre. Depuis le début du mois de juin, Benny Gantz est sorti du gouvernement, estimant qu'il ne pouvait plus influer sur le processus de décision. Yoav Gallant se retrouve seul. D'une certaine manière, il sert aussi de paratonnerre à Benjamin Netanyahou à l'intérieur du gouvernement, puisqu'il concentre sur lui l'ensemble des critiques de l'aile droite du gouvernement, laissant Benjamin Netanyahou à l'abri. Mais on voit clairement deux conceptions stratégiques qui s'opposent.
Alors pour terminer très rapidement, Pascal, on sait que Joe Biden et sa vice-présidente Kamala Harris rencontreront l'équipe de négociation américaine pour discuter des efforts visant à parvenir à un accord de cessez-le-feu. Et selon le Washington Post, les États-Unis présenteront à nouveau une proposition de cessez-le-feu à prendre ou à laisser, je cite.
C'est ce qui était déjà prévu depuis un peu plus d'une dizaine de jours. Évidemment, cette détermination américaine se renforce encore après l'annonce de la mort de ces 6 otages assassinés jeudi.
Merci beaucoup, Pascal. Rendez-vous tout à l'heure à partir de 7h26 en direct, évidemment, sur Radio J. Dans quelques instants, l'essentiel de l'information avec Eva Soto. Et puis à suivre, Shirim, la chanson israélienne du jour, comme tous les matins. Excellent réveil sur Radio J.
Radio J. Le 6-9, Ilana Ferradian.
Oui, 6h15, toute l'actualité avec Eva Soto. Bonjour Eva.
Bonjour, à la une de l'actualité, le 332e jour de guerre en Israël, aéroport, école, administration, tout est à l'arrêt. L'arme de la protestation pour un accord sur les otages, c'est une grève générale reconductible. Et hier soir, 29 personnes ont été arrêtées lors des manifestations qui ont eu lieu, notamment à Tel Aviv, alors que de leur côté, les terroristes du Hamas exigent aussi ce matin un retrait israélien du corridor de Netzarim et du passage de Rafah pour la conclusion d'un accord. En Allemagne, l'extrême droite, l'AFD, s'est largement imposée hier lors des élections en Thuringe, dans l'est du pays. Le parti talonne les conservateurs en Saxe. Et puis en France, Bernard Cazeneuve, Premier ministre, en tout cas, il doit être reçu par le président Emmanuel Macron aujourd'hui. Figure de l'ère François Hollande, les écologistes et LFI rejettent par avance sa nomination à Matignon.
Merci beaucoup Eva Soto. Eva, on vous retrouve tout à l'heure à partir de 6h30 sur Radio J.
Radio J, le 6-9, Ilana Ferradian.
Radio J.
Merci d'être avec nous sur Radio J et on va écouter cette chanson qui a pris un sens très particulier après le 7 octobre. Full Trunk, Stalbet, Baki Boots, c'est... on écoute ce matin.
לא ידעתי שחיפשתי אז גנה על קלנועית שתצא עליי
בחור, אתה טס כמו חללים
וואלה, פה זה לא מרוץ, פה לא צריך ללחוץ, פה לא נורא אם לא יהיה חרוז ניסיתי אז לפרוח בבטון המזוין לקח לי זמן לקלוט שהבטון עושה לי פריחה לקח לי זמן לענות לכל מי שאמר
שמע, אתה גר רחוק
נכון אחי, גר רחוק ממך
כמה זה לחוץ אז למה אם סתלבט בקיבוץ בחצי מחיר
והיו ימים הייתי קצת אכבר העיר אלחוטי, אחותי זה השביל של האופניים שם בסוף אפילו לא אכבר הכפר סתם בן אדם שאוהב לגור בחור ולקרוא לו מרכז העולם או פריפריה, סרט מלחמה או בג'אן אימפריה רמקול עם הצפת כנרת טבריה, אחלה צחוק עם הטרגדיה ניסמן, נראה לי איזה ילד שינה את הערך של האסי בוויקיפדיה
עזוב, ג'ימבו שחרר
אל הגליל והביקה לערבה ולגולן משפחות עולות בסופה של כמו לכותל חלומות מתוקים על סלטות ירוקים אבל כל הדרכים מובילות לחדר אוכל
כמה זה לחוץ אז למה אם סתלבט בקיבוץ בחצי מחיר הלא עובד קשה בשביל להיות עשיר לא מחפש כפיים אם זה לא בסופה כמה זה לחוץ אז למה אם סתלבט בקיבוץ בחצי מחיר הלא עובד קשה בשביל להיות עשיר לא מחפש כפיים אם זה לא בסוף השיר לא רוצה לריב על חנייה למה לי לגור בתוך אתר בנייה תן לי מיקרופון וגופייה יאללה ג'ימבו קח אותי לפטריה יושבים פה בקיבוץ חושבים מה לעשות חיים לנו בסרט כאילו יש אפשרויות רוצה ליפול על פיצה אבל נתקיע עוד יומיים רוצה לצאת לדריקס השעתיים
אבל יש פה ים שקט וים התראות וים דשא, ויש פה גם ים המטרות, וים שמש, שמשזפת ים לטעות, ויש פה ים, ים, ים ברכות.
כמה זה לחוץ, אז למה עיר? סתלבט בקיבוץ בחצי מחיר. ולא עובד קשה בשביל להיות עשיר. לא מחפש כפיים אם זה לא בסופה. כמה זה לחוץ, אז למה עיר? סתלבט בקיבוץ בחצי מחיר. לא מחפש כפיים אם זה לא בסופה כמה זה לחוץ אז למה אם סתלבט בקיבוץ בחצי מחיר לא עובד קשה בשביל
עובד קשה בשביל להיות עשיר עלק לא מחפש כפיים אם זה לא בסוף השיר
אני בשער, ניסמן
פותח, ביי
בים התראות, בים של חמה
Full Trunk, Stalbet, bah, Kibbutz, on s'amuse dans le Kibbutz. C'est oui, une chanson qui a pris un sens très particulier après le 7 octobre.
Radio J, le 6-9, Ilana Ferradian.
Merci de nous rejoindre sur Radio J comme chaque matin et place à notre interview hebdomadaire sur la campagne présidentielle américaine avec Sébastien Lévy, notre correspondant aux États-Unis. Bonjour Sébastien.
Bonjour Ilana.
Merci d'être avec nous comme chaque lundi. Et oui, c'est l'occasion à chaque fois de se pencher avec vous sur l'actualité aux États-Unis. Et ce matin, on va s'intéresser à un sujet très important, c'est la place d'Israël dans cette campagne présidentielle. Israël qui est un véritable marqueur, un vrai sujet beaucoup utilisé, c'est vrai, par les républicains, notamment contre les démocrates. Alors, on va évidemment l'évoquer, mais d'abord peut-être quelques mots sur les derniers faits de campagne, sur les derniers développements. Qu'est-ce qui s'est passé pour vous d'important cette semaine, Sébastien, dans cette campagne présidentielle?
Je dirais que d'abord, ce qui s'est passé, il y a d'abord eu un débat sur le débat. Il y a eu une petite polémique, est-ce que le débat aurait lieu? Donc Trump a dit qu'il n'irait pas, et puis finalement, Kamala Harris a donné des nouvelles conditions, et puis finalement, il semble que le débat que tout le monde attend aura bien lieu. Donc ça, ça a été le fait majeur qui a occupé les médias pendant 2-3 jours. Il y a eu également une polémique sur la visite de Trump dans un cimetière militaire, où c'est assez mal passé parce que ça a été perçu comme un acte de campagne. Trump, pour contre-attaquer, en fait, a attaqué l'administration démocrate Biden-Harris sur sa gestion, sur ce sujet notamment du conflit en Afghanistan, en disant qu'il y a des choses plus graves que de faire un meeting de campagne dans un cimetière militaire, c'est de conduire à la mort des soldats, notamment lors du retrait afghan. Donc ça a été assez violent. Et puis il y a également eu la première intervention de Kamala Harris, première intervention médiatique de Kamala Harris, qui était extrêmement attendue. Ça a été une intervention finalement assez neutre. On peut pas dire qu'il y a eu des classes. C'était le but, en fait. Elle voulait montrer sa solidité. On peut dire que ça s'est relativement bien passé. Et au cours de cette interview, elle a notamment parlé de son soutien, de la position en fait qu'elle aurait si elle était élue présidente par rapport à Israël, ce qui nous permet effectivement de parler du thème du jour.
Effectivement.
Donc, c'est important de rappeler que Kamala Harris qui a dit en fait qu'elle continuerait la politique de Joe Biden.
Effectivement, dans une interview à CNN, Kamala Harris, on l'a entendu, a répété ces mots. Israël a le droit de se défendre. Elle a aussi évoqué le sort des otages. Elle a dit qu'elle avait rencontré des familles d'otages. Concrètement, la question aujourd'hui, quel est le poids du vote juif? Est-ce qu'il existe d'ailleurs un vote juif aux États-Unis, Sébastien?
Alors, ce qui est intéressant, en fait, on peut dire que le sujet Israël est un sujet important, mais qui n'est pas complètement lié, en fait, aux Juifs. Et je m'explique. D'abord, les Juifs aux États-Unis sont assez peu nombreux. Les Juifs sont environ 7 millions, c'est-à-dire 2% des Américains, 2% du corps électoral. Plus important encore, ils vivent dans les États qui ne sont pas des États clés. La majorité des Juifs américains vivent à New York, Californie, dans le New Jersey, Floride, le Massachusetts, qui sont finalement des États. Et je suis sûr que vos auditeurs aujourd'hui connaissent maintenant l'importance des États clés. Ce ne sont pas des États qui risquent de basculer d'un camp ou dans un...
Des swing states, comme on dit.
Des swing states, exactement. Donc en fait, ils vivent dans des États qui sont finalement assez peu visités par les candidats. Et puis, encore plus important, les Juifs américains ne votent pas véritablement sur Israël. Lorsque vous leur posez la question, finalement, le sujet Israël intervient en cinquième ou sixième position. Ils sont d'abord des citoyens américains et puis ensuite... concerné évidemment par Israël, mais Israël intervient en cinquième ou sixième après le réchauffement climatique, l'économie ou la démocratie. Et puis, et c'est ce qui explique également le dernier point, c'est que les Juifs américains sont également fidèles. Ça fait environ un siècle qu'ils sont extrêmement fidèles au Parti démocrate, parce qu'encore une fois, pour eux, ce qui compte, ce sont les critères domestiques. Et sur les critères domestiques, ils sont beaucoup plus en affinité avec le Parti démocrate. Donc environ 70% des Juifs américains vote pour les démocrates, et c'est environ 80-85% des Juifs non haredim. Donc vous imaginez que ça n'est pas une clientèle électorale extrêmement intéressante pour les partis politiques, parce qu'ils ne risquent pas véritablement de changer de camp.
Effectivement, donc finalement le choix de vote par rapport à Israël compte assez peu, et pourtant c'est un véritable thème de campagne, hein, Sébastien.
Exactement. C'est un sujet qui pourtant est extrêmement important, parce que si Israël est finalement relativement peu important pour les Juifs américains dans leurs critères de vote, en revanche, il est très important chez les chrétiens évangéliques, qui sont environ 100 millions aux États-Unis contre 7 millions pour les Juifs. Or, pour les chrétiens évangéliques, il y a deux critères, il y a deux sujets très importants. Il y a l'avortement dont on a parlé la semaine dernière, et puis il y a le sujet d'Israël. Pourquoi Israël ? Parce que dans la vision évangélique, il est très important que les Juifs occupent Eretz Israël. Je ne parle pas de Médinat Israël, l'État d'Israël, mais la terre d'Israël, car c'est seule la présence massive de Juifs en Eretz Israël qui permettra le retour du Christ, en fait, sur la terre. Donc, pour eux, c'est extrêmement important que les Juifs occupent la terre d'Israël. La deuxième raison pour laquelle c'est extrêmement important, et vous en avez parlé dans votre introduction, c'est que Israël, finalement, est un marqueur politique. Pourquoi ? C'est-à-dire que depuis notamment le 7 octobre, notamment, vous avez le Parti républicain essaye de dépeindre le Parti démocrate comme un parti finalement lié au parti woke, ce qu'on a vu notamment sur les campus américains. Donc ça a permis finalement au Parti républicain d'associer, par erreur, mais on peut y revenir, finalement le Parti démocrate à un parti loin des valeurs américaines, complètement éloigné, et ce d'autant plus qu'aux États-Unis, 65% des Américains ont une sympathie envers le pays d'Israël. Je ne parle pas vraiment du gouvernement, c'est plutôt 40%. Donc, en fait, les Américains sont pro Israël. Donc, les Républicains essayent d'associer le Parti démocrate à un parti anti-Israël. Ça leur permet finalement d'aller chercher notamment des électeurs modérés et indépendants, qui peuvent évidemment les aider énormément. Et puis je rajouterai un dernier point par rapport à ce que je viens de dire. Trump, dans cette optique-là, ne cesse de dire qu'il ne comprend pas aujourd'hui que les Juifs puissent voter démocrate, parce que, ayant fait beaucoup pour Israël, il ne comprend pas, en fait, que les Juifs puissent voter démocrate. C'est dit, en fait, au dernier point, et ça lui permet, là aussi, de marteler ce point que le Parti démocrate n'est pas un parti pro-israélien.
Alors, il est vrai qu'au sein du Parti démocrate, il y a des éléments qui sont très anti-israéliens, et je pense notamment à cette élue, Alexandria Ocasio-Cortez, qui a multiplié les déclarations anti-israéliennes. Est-ce qu'on assiste, selon vous, à un divorce entre le Parti démocrate et l'État d'Israël ?
Alors, nous n'en sommes pas encore là. Je rajouterai un chiffre important. Il y a aujourd'hui 36 parlementaires aux États-Unis. 35 sont démocrates, pardon. Un seul est républicain. Donc, je pense que c'est aussi important d'avoir ça en tête. Et malgré tout, Israël, la majorité des Juifs américains sont proches d'Israël. C'est environ 80 à 85%. Donc, c'est important de rappeler ça. La plateforme du Parti démocrate reste une plateforme extrêmement pro-Israël. D'ailleurs, à la fureur notamment de l'aile gauche du Parti démocrate, qui a été extrêmement déçu du fait que le Parti démocrate resterait pro-Israël dans sa plateforme. Et puis, quand on voit les derniers propos de Kamala Harris, ce sont des propos qui sont traditionnellement pro-démocrates. Ça ne veut pas dire que ce sera encore le cas dans une génération. On peut penser que dans les deux ou trois prochains cycles électoraux, le Parti démocrate restera un parti traditionnellement pro-Israël. En revanche, il n'est pas certain que ce soit le cas à l'horizon d'une génération. Vous avez effectivement une aile gauche du Parti démocrate qui est de plus en plus critique envers Israël. Et je voudrais rajouter un dernier point là-dessus. Vous avez d'un côté une évolution du Parti démocrate, c'est vrai, qui est plus concerné par les droits des minorités et qui parfois a tendance à assimiler le sionisme à du colonialisme. Et puis à côté de ça, vous avez une évolution parallèle, je dirais, de l'État d'Israël et du gouvernement d'Israël, qui est une évolution un petit peu plus conservatrice. Et donc, il est évident que dans ce double mouvement actuel, vous risquez d'avoir un divorce de plus en plus marqué entre le Parti démocrate et l'État d'Israël. Encore une fois, nous n'en sommes pas là. Et je pense que c'est important de constater non seulement le mouvement du Parti démocrate, mais également le mouvement de ce qui se passera en Israël. Le soutien bipartisan à Israël, c'est un élément absolument stratégique pour l'État d'Israël. Il faudra évidemment espérer que ce soutien du Parti démocrate ne disparaîtra pas. Et ce sera l'enjeu des prochaines élections et, je dirais, à horizon d'une ou deux générations.
Et donc, vous l'avez dit, le 11 septembre aura lieu donc un débat entre Donald Trump et Kamala Harris. On imagine que le sujet sera mis sur la table, évidemment.
Complètement, parce qu'il est évident que Donald Trump essaiera, je dirais, de vraiment assimiler le Parti démocrate à un parti anti-israélien. Et donc, pour les raisons qu'on a évoquées un petit peu plus haut, c'est quelque chose qui peut notamment lui permettre d'aller chercher des électeurs modérés qui, aujourd'hui, sont plutôt tentés d'aller du côté de Kamala Harris. Donc, effectivement, ce marqueur politique sera sans doute un sujet important au cours du débat. Et d'ailleurs, dans la dernière triste journée que nous avons vécue, ça a d'ailleurs été un sujet rappelé par Donald Trump par ses tweets, où il a accusé très violemment le gouvernement Biden d'avoir abandonné finalement les otages à leur sort. Et donc là, encore une fois, en politisant le sujet Israël.
Eh bien, merci beaucoup Sébastien Lévy. Merci d'avoir été avec nous. On vous retrouve la semaine prochaine et dans la semaine également, on commentera ce débat. Il faudra s'attendre effectivement à des attaques entre Donald Trump et Kamala Harris. Merci beaucoup Sébastien Lévy. Je vous dis à la semaine prochaine. Vous restez avec nous sur Radio J dans quelques instants. Le journal avec Eva Soto. Et puis juste après, comme chaque jour, ce lundi 2 septembre, c'est le Dvar Torah du jour avec le Rav. Mais vos rares herbibes, restez avec nous. Nous sommes ensemble jusqu'à 9h.
Radio J, le 6-9, Ilana Ferradian.
Il est 6h30. Bonjour et bienvenue sur Radio J. Merci de nous rejoindre comme tous les matins, lundi 2 septembre 2024, 332e jour de guerre en Israël. On en parle évidemment sur Radio J, 101 otages désormais à Gaza. Et l'actualité avec Eva Soto. Bonjour Eva.
Bonjour Ilana, bonjour à tous.
332e jour de guerre, aéroport, école, administration. Israël est à l'arrêt à partir d'aujourd'hui. Effectivement, l'arme de la protestation pour un accord sur les otages, c'est la grève générale.
Et vous l'avez dit Ilana, de nombreux secteurs sont touchés par ce mouvement en Israël. Les grands centres commerciaux ont annoncé leur fermeture à partir de midi, à l'exception des magasins essentiels, les banques, les ministères et une partie des entreprises high-tech participe également à cette grève. Dans les transports, des perturbations sont à prévoir. Le tramway de Jérusalem ne fonctionnera pas jusqu'à midi, tandis que celui de la région de Tel Aviv circulera selon un horaire réduit. Et puis l'aéroport Ben Gurion, lui, restera ouvert, malgré l'annonce de la Histadrout d'une interruption des décollages à partir de 8h. Mais attention, des perturbations sont possibles et une interruption de 2h entre 8h du matin, heure locale, et 10h n'est pas exclu.
Et après l'annonce de l'assassinat de 6 otages par le Hamas, des milliers d'Israéliens ont manifesté déjà hier soir.
10 000 comptabilisés juste pour Tel Aviv à l'appel du Forum des familles des otages qui accusent le Premier ministre et le gouvernement d'avoir abandonné les captifs en fin de manifestation. Et même durant ces manifestations, il y a eu des affrontements avec les forces de l'ordre. 29 personnes ont été arrêtées. Le désaccord porte sur la ligne actuelle du gouvernement israélien et la décision prise jeudi par le cabinet de guerre sur le maintien de Tsahal le long du couloir de Philadelphie entre Gaza et l'Égypte, alors que les terroristes du Hamas, l'adjoint du numéro 1 notamment, exigent aussi ce matin un retrait israélien du corridor de Netzarim et du passage de Rafah. Benjamin Netanyahou, le premier ministre israélien.
Ces jours-ci, alors qu'Israël mène des négociations intensives avec les médiateurs dans un effort suprême pour parvenir à un accord, le Hamas continue de refuser fermement toute proposition. Pire encore, à ce moment précis, il a assassiné 6 de nos otages. Celui qui assassine les otages ne veut pas d'accord. Nous, de notre côté, n'avons pas lâché prise. Le gouvernement israélien est déterminé et je m'engage personnellement à continuer de lutter pour un accord qui finira par libérer tous nos otages et garantira notre sécurité et notre existence.
Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, qualifié de tueur sur un tag retrouvé sur un véhicule qui assure son cortège habituellement pour dégager les voies de circulation. Le Shin Bet enquête sur la façon dont les vandales ont pu accéder à cette voiture sans intervention.
Et ces protestations, en tout cas, ne font pas taire les armes, Eva.
En Judée-Samarie, des terroristes ont attaqué à coups d'explosifs, les troupes déployées à Jenin ont été visés par un raid aérien sur le front nord. Les sirènes d'alerte ont encore retenti hier soir. L'armée de l'air israélienne a frappé des lanceurs de missiles du Hezbollah plus tôt dans la journée. Un de ses engins a explosé dans la région de Kfar Yuval. Un réserviste de Tsahal a été blessé ainsi qu'un civil, lui aussi évacué vers l'hôpital, alors que le chef d'état-major de l'armée israélienne s'est rendu hier sur le site où les 6 otages ont été découverts après avoir été assassinés par le Hamas, le porte-parole de Tsahal, Daniel Hagari.
Nous avons informé les familles des otages retrouvés que les corps de leurs proches ont été retrouvés par les forces armées israéliennes dans un tunnel souterrain à Rafah. D'après nos premières informations, ils ont été brutalement assassinés par les terroristes du Hamas peu de temps avant qu'on ne les retrouve. Ils ont été kidnappés vivants par le Hamas le matin du 7 octobre. Leurs corps ont été trouvés au cours d'un combat dans un tunnel de Rafah qui se trouve à près d'un kilomètre du tunnel où nous avons secouru Farhan Al-Kadi il y a quelques jours.
Daniel Agari, traduit par LCI. Le président Biden s'est quant à lui entretenu au téléphone avec John Pauline et Rachel Goldberg, aussi de nationalité américaine, les parents de Hersh, qui fait partie des otages donc qui ont été tués et qui ont été retrouvés.
Et puis très rapidement, Eva, au chapitre politique, hier lors de la réunion hebdomadaire du gouvernement, plusieurs ministres ont fustigé Yoav Gallant.
Le ministre de la Défense est resté sur sa ligne en affirmant les exigences sur le corridor de Philadelphie nous empêcheront d'atteindre les objectifs de la guerre. Selon ses mots, en faire une priorité au prix de la vie des otages, c'est une honte morale. L'establishment sécuritaire estime que quitter Philadelphie dans l'immédiat est possible, quitte à y revenir plus tard. C'est dans ce contexte que les 6 otages ont été enterrés hier en Israël.
Merci Eva, à tout à l'heure sur Radio J.
Le 6-9, Ilana Ferradian.
6h35 minutes et c'est le Dvar Torah du jour avec le Rav Mevorar Zerbi. Rav, bonjour.
Bonjour Ilana, bonjour à toutes et à tous. Une petite réflexion aujourd'hui sur la paracha qui nous parle de plusieurs personnages fondamentaux au niveau de la société des enfants d'Israël. Le premier qui est évoqué, c'est le juge Shoftim. C'est le nom de la paracha Shoftim Veshotrim, des juges et des huissiers, on pourrait dire. Shoter, c'est pas, ça veut pas dire forcément comme en hébreu moderne un policier, mais on va dire peut-être celui qui va exécuter la continuité du juge. Donc on a le juge, après on a le roi, le Meller, on a le Kohen, le prêtre, et on a le Navi, le prophète. Et ces 4 personnages, en fait, vont nous donner tous les éléments importants. Le Meller, le roi, c'est celui qui s'occupe, on va dire, à la fois de l'économie et de la politique, de la protection, de la défense. C'est le roi. Le Shofet, c'est le juge qui va s'occuper de la protection de chaque personne au niveau individuel par rapport à son prochain. Alors que le roi, c'est plus dans le rapport de pays à pays. Enfin, on a le Kohen qui est celui qui amène les sacrifices, qui nous accompagne dans la Voda. Il est le prêtre, il n'a pas de lopin de terre en Eretz Israël, et il va avoir comme mission essentielle d'enseigner. Enseigner, ça va être aussi un lien avec le Navi, le prophète, qui littéralement dit la parole de Dieu. Le Navi peut dire des choses qui sont dans l'avenir, mais c'est pas sa fonction première. Celle du prophète, c'est pas de faire de la futurologie ou d'annoncer ce qui doit se passer dans l'avenir, parce que l'avenir dépend du libre arbitre de l'homme et il ne peut pas être figé, il ne peut pas être arrêté. C'est pour ça que le Navi va donner des... Le prophète va donner des éléments pour pouvoir avoir une projection dans l'avenir en fonction de notre comportement dans le présent. Ça, c'est la fonction première du Navi, du prophète, c'est de nous exhorter à faire teshuva pour pouvoir nous amender. Ainsi, quand on va prendre le roi, le juge, le prêtre et le prophète, eh bien, en hébreu, le roi, c'est Meller, le juge, c'est Shofet, le Kohen, le prêtre, c'est Kohen, et le prophète, c'est Navi. Quand on prend les initiales de ces 4 mots, ça fait Mem, Shin, Kaf, Nun, ça fait Mishkan, le sanctuaire. Bien, le sanctuaire, c'est cette protection à la fois par le roi, par le juge, le Kohen, et le prophète. Excellente journée, et ce soir, c'est Rosh Chodesh Elul. C'est-à-dire que demain, ce sera encore le 30, en 30 av. Le premier Eloul sera donc mardi soir, mercredi dans la journée. Ce sera le premier Eloul avec toutes ces symboliques de Teshuvah, année de Div et de Dili, je suis mon bien-aimé est à moi. Tout ça, c'est le mois d'Eloul. Et pour l'heure, eh bien, on doit faire Teshuvah sous le signe du lion. Excellente journée.
ואומר תודה להם.
Bien démarrer votre journée sur Radio J comme chaque matin avec le Rav Mevorer Zerbib. Rav, à demain.
Radio J.
Bonjour, c'est Lise Gutmann.
Le 10-11, Lise Gutmann.
Ravi de vous retrouver tout à l'heure au programme Judaïsme, divertissement, communauté.
Radio J. Radio J.
Le 6-9. Ilana Ferradian.
8h41, merci d'être avec nous. Et tout de suite, Micro-Sion, c'est votre carte postale d'Israël avec l'indétrônable Xavier Nataf. Bonjour Xavier.
Les cultures d'entreprises françaises et israéliennes sont assez différentes l'une de l'autre, avec des ensembles distincts de normes, de valeurs et de comportements. La culture d'entreprise française se caractérise par une structure formelle et hiérarchique, avec un fort accent sur la tradition et le respect de l'autorité. En revanche, la culture d'entreprise israélienne a tendance à être plus informelle et égalitaire, mettant moins l'accent sur la hiérarchie et mettant davantage l'accent sur l'innovation et l'entrepreneuriat. En Israël, les relations et le réseautage sont également très appréciés et les interactions commerciales ont tendance à être plus directes et plus simples par rapport à la France. Les Israéliens ont tendance à accorder une plus grande valeur à la prise de risque et ont tendance à être plus disposés à adopter le changement et l'innovation. Les Français sont connus pour être minutieux et axés sur la qualité, tandis que les Israéliens ont tendance à être plus axés sur les résultats. De plus, la semaine de travail française est généralement de 35 heures, alors qu'en Israël, la semaine de travail est plus longue et qu'il y a moins de vacances. Enfin, les styles de communication diffèrent entre les cultures. Les Français ont tendance à valoriser la précision et l'exactitude dans la communication et attendent un langage clair et concis, tandis que les Israéliens ont tendance à être plus directs dans leur style de communication. Bien qu'il s'agisse de généralité, cela peut aider à éclairer les pratiques commerciales et les styles de communication lorsque l'on travaille à travers les cultures et des pays différents.
Micro-Sion, cette carte postale d'Israël vous est offerte par l'Organisation Sioniste Mondiale.
Radio J, le 6-9, Ilana Ferradian.
Un peu de musique traditionnelle japonaise ce matin. Et oui, direction le Japon. Alors moi, j'ai une petite question pour vous, Eva Soto. Est-ce que vous aimez les sushis ?
J'adore les sushis.
Eh bien, cette nouvelle va vous régaler. Effectivement, pour ceux qui n'ont pas la ref, c'était Chouchou, Gad Elmaleh dans Chouchou.
Voilà.
À l'époque, quand on n'avait pas encore 20 ans. Non, c'est pas ça l'expression.
Ouais.
Pour les...
Un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas
connaître. Voilà. Absolument. Eh bien, cette nouvelle va vous régaler puisqu'on parle de sushi, le pays de la gastronomie, la France. C'est une nouvelle fois de plus illustré dans une catégorie qui n'est pourtant pas sa spécialité, les sushis, puisque trois chefs français montent ainsi sur le podium au championnat du monde de sushi 2024. Bah oui, qui aurait dit que des chefs français étaient si doués pour les sushis? Bah oui, nous sommes doués pour tout, nous les Français. Alors, ça s'est passé du 20 au 23 août dernier, le championnat du monde de sushi qui a eu lieu au Tokyo Big Sight. Et devinez qui a terminé sur les trois premières places du podium. Vincent Broggy, Jérémy Segouda et Alexis Lyong, trois chefs français coachés notamment par Eric Ticana. Pour ceux qui connaissent, le chef du restaurant Omakase by Goma à Val d'Europe, l'équipe de France de sushi qui a réalisé un exploit inédit au championnat du monde en se positionnant donc sur ces trois premières marches. Et parmi les 22 participants représentant au total 11 pays, la France qui s'est illustrée de manière éclatante, et on peut les voir sur leurs réseaux sociaux, des photos tout sourire avec leur petite coupe en main. C'est lors de l'épreuve Edomae, pierre angulaire du concours, où les compétiteurs doivent réaliser un plateau entier de sushis, que Vincent Broggy, notamment originaire du sud-ouest, a su s'imposer à la première place. On aura l'occasion d'en parler. En tout cas, il y a des très bons restaurants de sushis, c'est vrai, en France et notamment à Paris.
Radio G, le 6-9,
Ilana Ferradian. 6h45, l'essentiel de l'information avec Eva Soto. Bonjour Eva.
Bonjour Ilana, bonjour à tous. À la une de l'actualité, 332e jour de guerre et mobilisation générale, même grève générale en Israël après la découverte des corps de 6 otages assassinés par le Hamas. Mobilisation pour un accord dans les transports en Israël. Des perturbations sont à prévoir, notamment dans les bus. Le tramway de Jérusalem ne fonctionnera pas jusqu'à midi. Perturbations également dans le secteur de l'éducation. Le syndicat des enseignants a annoncé que les jardins d'enfants seront fermés. L'aéroport Ben Gurion restera ouvert, mais des perturbations sont à prévoir. Les hôpitaux fonctionneront selon le régime du Shabbat. Aux États-Unis, ce matin, des milliers de personnes se sont rassemblées sur le Columbus Square à New York, dans le centre de Manhattan, avec un mot d'ordre concernant les otages. Ils auraient pu et dû être sauvés. De son côté, l'ambassadeur d'Israël aux Nations Unies, Danny Dan a lancé un appel, convoque une discussion d'urgence sur la situation des otages.
Merci Eva. Prochain rendez-vous avec l'actualité à 7h15, 7h, le journal d'Israël avec les studios Qualita.
Radio J.
Radio J. Le 6-9. Ilana Ferradian.
Bien sur Radio J, comme tous les matins, merci de votre fidélité. Et c'est à présent la chronique Mila, le mot du jour. On apprend chaque jour un mot en hébreu. Et pour nous aider, le Rav Raphaël Gottfarstein est avec nous. Bonjour, Boker Tov.
Boker Tov, Ilana, vous allez bien?
Et oui, ça va et vous?
Je pensais que c'était dur de se lever le matin, mais finalement, on prend le pli et ça devient de plus en plus simple.
Et en plus, avec nous dans la matinale, c'est d'autant plus sympathique. Alors, on l'a dit, on l'a annoncé déjà, votre chronique, c'est à chaque fois nous présenter deux personnages juifs à travers un mot en hébreu. Et ce matin, ce mot, c'est manhig, qui signifie leader.
Un leader, oui, un leader. Et on va voir deux leaders du peuple juif. Et vous allez me dire, Ilana, lequel et avant lequel, comme toujours dans notre petit défi chronologique. Donc, il s'agit de Mordechai Anilevitch et du Rav Kalman Kalonimus Shapiro Mipsichirsna.
Alors, franchement, j'ai à chaque fois une chance sur deux. Je sais que Mordechai Anilevitch, c'était pendant la révolte du ghetto de Varsovie. Par contre, c'est vrai que le Rav Kalman, je ne sais pas. Je donne ma langue au chat.
Alors, tentez.
Le Rav Kalman, peut-être après Anilevitch?
Non. Avant. C'est pas avant non plus.
Ah, c'est en même temps.
C'était l'arnaque, c'était en même temps. Les deux ont vécu dans le ghetto de Varsovie à la même période. Et donc, Mordechai Anilevitch, comme beaucoup le savent, va être un des leaders, manhig, alors qu'il a même pas 30 ans, à peine 20 ans passés, va être un des leaders des adolescents juifs, donc qui vont se révolter contre les nazis. Comme vous le savez, le 19 avril 1943, c'est cette date-là qu'on garde, bien que la révolte, en fait, a commencé un peu plus tôt, mais on garde cette date, parce que c'est à cette date-là que les Allemands vont vouloir rentrer dans le ghetto, et ils vont pas être déçus de la réception qu'ils vont avoir. Donc 800 adolescents juifs, pas armés et pas formés, qui vont tenir tête pendant 3 semaines à l'armée allemande, qui va finalement brûler entièrement le ghetto, mais ils n'arrivent pas à les déloger. Ouais. Et ça, c'est un des chefs de la révolte, est Mordechai Anilevitch. Et pendant cette période-là, en même temps, il y a le Rav Kalman Kalonimus Shapira Mipsichirsna, qui est dans le ghetto de Varsovie, et qui va d'ailleurs mourir pendant la Shoah, qui va être le manhig, le leader de toute la population, on va dire, religieuse du ghetto, pour essayer d'organiser à l'intérieur du ghetto une vie juive malgré les conditions plus que terribles, et surtout l'interdiction aussi de se réunir pour prier ou quoi que ce soit, ou pour enseigner. Il va réussir à garder un mikvé ouvert pour garder les rituels juifs pendant
c'est vrai qu'il y avait des cessez-le-feu pendant la période du ghetto.
Évidemment, ils n'avaient pas à manger, etc. Mais on abordera ça plus en détail. Mais juste un point que j'aimerais dire sur Rav Kalman Kalonimus Shapira Mipsichirsna, si on arrive bien à le prononcer, c'est qu'il va écrire un livre dans le ghetto de Varsovie, qu'il va donner à un journaliste, qui va les cacher dans les jars de lait dans lesquels il va cacher toutes les chroniques du ghetto, et qui s'appelle Ringenblum. Et on va retrouver après la Shoah ce livre, il s'appelle le Esh Kodesh, et on l'a grâce à ce défi qui s'est lancé d'écrire un livre dans le ghetto de Varsovie.
Eh bien, merci pour cette belle histoire. Toda Rabba, Mordechai Anilevitch et le Rav Kalman Kalonimus Shapiro
Mipsichirsna.
Je sais pas prononcer. Mais merci beaucoup, en tout cas, de nous faire découvrir ces histoires chaque jour sur Radio J. Et je vous dis à demain.
À demain.
Le 6-9. Radio J.
Radio J. Radio J.
Ben oui, on se tente oui. En prononciation
oui,
sur
on
Radio
se
J.
Jette comme
mais ça,
ça
ne fonctionne pas forcément. Mirpirnchins.
Non,
bon, j'arrive toujours pas. Mais en fait, je pense qu'il faut le lire. Il faut le lire. Et une fois qu'on l'a dans la tête, ça passe mieux.
Voilà.
Vous restez avec nous, les amis. On va parler évidemment de la rentrée scolaire. Et oui, préparez vos petits cartables, vos crayons, vos cahiers. Près de 2 mois après le début des vacances, la rentrée va avoir lieu ce lundi 2 septembre. On va en parler notamment dans l'infotrafic parce qu'il y a des perturbations aujourd'hui. Mais d'abord, Rémi Sainbaum pour un jour, une mitzvah. Chaim, bonjour.
Bonjour à tous. Tout le monde l'a déjà remarqué. Quand arrive le moment d'une brit mila, d'une circoncision, on prépare toujours pour la cérémonie une chaise supplémentaire. Mais qu'une chaise, un fauteuil, d'ailleurs souvent très ornementé. Il s'agit de celle d'Eliaou, le prophète Élie, dont on nous dit qu'il ne mourut jamais, dont le texte biblique nous raconte que Dieu le rappela à lui avec son corps dans un char de feu. Quel est le rapport ? Bien justement, c'est l'objet de notre chronique de ce matin. Au temps où il vivait, les maîtres de cette époque promulguèrent de féroces décrets interdisant la circoncision. Élie ne put supporter une telle situation, il s'enfuit, quittant les endroits habités, et se réfugia dans une grotte. Dieu alors lui apparut, l'interrogeant, « Que fais-tu là, Eliaou ?» Et le prophète lui répondit, « C'est que je n'ai pu me résigner à ce que les Juifs abandonnent la marque de ton alliance. » Dieu lui déclara alors, « Toi qui t'es montré si pointilleux à propos de la circoncision, tu témoigneras que les Juifs continuent de la pratiquer. » Chaque fois qu'une cérémonie de circoncision aura lieu, tu y seras présent. Aussi, depuis lors, le prophète Élie continue d'assister à toutes les circoncisions. Et la chaise que l'on prépare est bien en son honneur. Cette histoire va bien sûr plus loin que l'anecdote. C'est que Dieu lui-même a voulu, comme attesté ici, de la fidélité du peuple juif à ses commandements éternels. Et cette histoire nous donne toute la mesure de la grandeur de la circoncision à toujours porter en tête et en cœur. Bonne journée à tous.
Bonne journée, Chaim Nissenbaum, et je vous dis à demain sur Radio J. Et oui, bienvenue à Paris, si vous êtes de retour avec cette rentrée à Paris et en Ile-de-France. Et une petite nouvelle pour vous, si vous appréciez déjà Anne Hidalgo, eh bien vous allez l'aimer encore plus, puisque Anne Hidalgo l'a décidé, elle veut réduire la vitesse à 50 km/h sur le périphérique parisien d'ici fin octobre. Effectivement, passer donc de 70 à 50 km/h, c'est ce qu'a annoncé hier la maire de Paris, Anne Hidalgo, dans un entretien accordé à Ouest France, une politique défendue par les deals comme une mesure de santé publique pour les 500 000 personnes qui vivent à ses abords. Objectif, selon le plan climat de la ville, réduire les nuisances pour les riverains du périphérique, hein, pas sûr que ça fonctionne s'il y a beaucoup d'embouteillages, et abaisser la pollution atmosphérique. La mesure déjà annoncée en novembre 2023 par Anne Hidalgo, qui souhaite également réserver une des voies du périphérique au covoiturage, fait l'objet depuis des mois de nombreuses passes d'armes entre la mairie et le gouvernement. Il faut dire que 80% de non-parisiens sont sur le périphérique et ça va les retarder énormément si eh bien, la vitesse est abaissée sur cette route. On aura peut-être l'occasion d'en reparler sur Radio J. Tout de suite, l'infotrafic.
Radio J, le 6-9, Ilana Ferradian.
Tous les matins à 7h45 sur Radio J. Christophe Barbier.
Je vous retrouve tous les matins dans le 6-9 d'Ilana Ferradian avec un invité politique chaque jour. C'est le Barbier du matin.
C'est tous les jours à 7h45 sur Radio J.
Radio J.
Le 6-9, Ilana Ferradian.
Radio J.
Et effectivement, qui dit rentrée scolaire dit perturbation dans les métros, les lignes de RER notamment. Alors pour les usagers du métro, c'est quand même une excellente nouvelle. Les stations Concorde, situées sur la ligne 1 et 8 et Tuileries, rouvrent leurs portes à partir de ce lundi. En revanche, la première restera fermée, Concorde, sur la ligne 12 jusqu'au 21 septembre. Conséquence des Jeux Paralympiques, la station Champs-Élysées-Clémenceau, ligne 1 et ligne 13, ne sera pas accessible. Les usagers du métro devront emprunter un itinéraire alternatif. Sur les lignes de RER, les trains franciliens desservent de nombreux sites comme le Champ de Mars, les Invalides ou encore le Château de Versailles sur la ligne C. La circulation pourrait donc être compliquée avec la collision de la rentrée scolaire. Ce devrait notamment être le cas sur la ligne B et la ligne D, marquée par l'arrêt Stade de France où se déroule le para-athlétisme. Pour éviter l'afflux, les autorités de transport conseillent de se référer à l'application Transport Public Paris 2024. On fera un point à nouveau de l'infotrafic tout à l'heure à partir de 8h.
Radio J, le 6-9, Ilana Ferradian.
Radio J.
Merci de nous rejoindre sur Radio J, un soutien psychologique subventionné aux familles bénéficiaires de son programme Israël by Tzedaka. L'association est partenaire de la plateforme en ligne Psy26, lancée par l'hôpital Sheba, Lozé et Kol Israël Haviri. Mais pour en parler, nous sommes avec la responsable d'un des programmes justement de Qualita, Jessica Amar. Bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin, Jessica. Oui, c'était important de vous entendre ce matin, puisqu'on sait qu'après le 7 octobre, beaucoup de personnes ont eu besoin d'avoir un soutien psychologique. Alors, il y a deux programmes qui sont mis en place. D'abord, un par Qualita et un autre donc par l'hôpital Sheba. Vous vous occupez des deux programmes ou seulement de celui de Qualita ?
Alors absolument, je m'occupe des deux programmes qui sont assez distincts l'un de l'autre. L'un est pour aider les familles qui sont déjà aidées par Qualita, donc des familles en difficulté financière. Et l'autre est ouvert à toute personne, tout francophone israélien qui a besoin d'un soutien psychologique en cette période compliquée. Mmh.
Alors comment ça se passe pour le programme de Qualita, les bénéficiaires qui payent seulement une toute petite partie pour être pris en charge, hein, c'est ça ?
C'est ça. Alors on a des familles qui sont aidées notamment par Qualita tous les mois, notamment des bons alimentaires, et ces familles peuvent bénéficier d'une thérapie à prix réduit. Ils payent l'équivalent de 10-12 euros par séance, et comme ça peuvent bénéficier de 12 séances de thérapie pour chaque membre de la famille.
Donc c'est des séances qui concernent à la fois les enfants, les adolescents, les adultes. C'est vraiment ouvert à tout le monde, hein.
C'est ouvert à tous. On essaie de traiter tout type de problématiques. Les familles qui ont des difficultés financières, malheureusement, très souvent ont d'autres difficultés. Des divorces, des familles monoparentales, des maladies. Donc on essaye vraiment de les accompagner dans ces difficultés pour avoir une approche holistique et les aider à se sortir de cette situation compliquée.
Aujourd'hui, combien de personnes justement bénéficient de ce programme, Jessica ?
Alors aujourd'hui, on a environ 80 personnes qui sont en suivi. On a aidé près de 200 personnes aujourd'hui dans le programme.
200 personnes. Alors comment ça se passe concrètement ? Est-ce que ce sont des rendez-vous en cabinet ? Est-ce que ce sont des rendez-vous à distance ? Comment ça se passe ?
Alors tout dépend des zones d'Israël. Dans les zones où on a des psychologues qui travaillent avec nous, et bien dans le maximum des cas, des rendez-vous en présentiel, donc la personne va au cabinet du thérapeute. Et dans les zones où on n'a pas, eh bien on a opté pour un format Zoom pour vraiment permettre à tout le monde de bénéficier de ce programme.
Et donc il y a beaucoup de psychologues qui sont à disposition de Qualita, hein. Combien à peu près ?
On travaille avec près de 25 thérapeutes.
25 thérapeutes, donc des psychologues, des assistants sociaux notamment. Alors ça, c'est pour le programme de Qualita. Et puis, on l'a dit, il y a l'hôpital Sheba, Lozé et Kol Israël Haverim qui ont mis en place aussi une plateforme en ligne. Alors, une plateforme qui s'appelle, je crois, psy26.com. Hein.
Exactement. Psy26.com, c'est une plateforme en ligne. Donc, ce sont des séances de thérapie complètement gratuites, en distanciel, donc tout se fait en vidéo, qui ont été mis à disposition juste après la guerre pour aider toute personne qui a vécu un trauma, qui a besoin de parler par rapport à la situation par rapport à la situation actuelle.
C'est-à-dire que les personnes que vous ne pouvez pas aider via le programme Israël Tzedaka, vous les redirigez plutôt vers Psy 26, ça concerne plutôt des traumas de guerre.
Ça concerne les traumas de guerre, mais on s'est rendu compte que la guerre a déclenché aussi d'autres traumatismes, a fait remonter beaucoup de choses chez les gens. Et donc le programme a été ouvert à toute personne qui ressent le besoin de parler. Ils peuvent être orientés vers la plateforme.
Mmh. Et donc ils ont droit aussi à des séances gratuites, je crois, en visio. Hein.
Exactement, ils ont le droit à des séances gratuites en visio. Après la première séance, qui lui estime le nombre de séances qu'il est prêt à mettre à disposition de l'usager. Et il accompagne la personne tout au long. Ça peut être des psychologues, ça peut aussi être des psychiatres francophones. C'est ça qui est très difficile pour les Israéliens de trouver il y a énormément d'attentes aujourd'hui pour avoir accès à un psychologue ou un psychiatre. Et donc, ça permet à ces personnes de parler très rapidement à quelqu'un et d'être accompagnées dès le début des difficultés.
Eh bien, merci beaucoup, Jessica Amar, de nous avoir fait découvrir ce site psy26.com si ça vous intéresse, ou le programme de Qualita, qualita.org.il. Évidemment, on a tous besoin, peut-être un jour dans notre vie, d'être écouté, de parler à un professionnel de santé. Merci beaucoup, Jessica Amar, et je vous dis à très bientôt sur Radio J. Justement, on va rester avec Qualita, les équipes Qualita, dans quelques instants. Tout de suite, c'est le journal d'Israël avec notre correspondant à Jérusalem, Daniel Haïk.